Qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie ?
Marcher dans la vie ? Bon, déjà marcher, ça tombe bien, puisque je n'ai pas de permis de conduire, donc je marche beaucoup, je fais du vélo. Mais maintenant, marcher, pour répondre précisément à ta question, dessiner, espérer faire des voyages, voir mes filles grandir, vivre avec ma compagne, voir mes copains, être heureux, quoi. Ça me fait marcher, continuer. Voilà.
Et quand tu es malheureux, tu restes immobile ?
Je m'enferme chez moi, je l'ai fait trop longtemps. J'ai été malade il y a quelques années, j'ai fait une dépression. J'ai vu ce que c'était s'isoler. Et j'ai plus du tout envie de connaître cette situation, cet état. Voilà. Maintenant, j'ai des isolements forcés pour m'enfermer, pour travailler. Mais l'isolement, comme je l'ai vécu, je ne veux plus. J'aime sortir, j'adore venir dans le centre-ville de Nantes. J'habite Chantenay. Donc, souvent, je viens à pied et je me régale et ensuite je retourne chez moi. Tout à l'heure, avant qu'on se rencontre, j'ai fait une bonne balade à pied et j'ai apprécié cette jolie lumière sur Nantes. Et j'ai pris à droite, à gauche, je suis passé devant tel bar, j'ai bu un petit café, je me suis baladé, ça m'a fait le plus grand bien.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Éric Sago, le dessinateur de Paco les Mains Rouges, bande dessinée parue en 2 tomes aux éditions d'Argo et scénarisée par Fabien Vellman. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu un crayon en main ?
La première fois, non, mais j'ai des souvenirs d'enfance à l'école, à Orvault. J'étais dans une toute petite école à Orvault et je me souviens de dessiner Lucky Luke avec un copain qui s'appelait Gérard Sourget. Même nom de famille que toi. Et il dessinait Lucky Luke, ça m'épatait et j'essayais de le copier. Mais je me souviens d'utiliser ces crayons de couleur à l'école. Je dessinais, je voyais déjà que dessiner c'était une récréation formidable.
Et c'était instinctif ?
J'ai toujours aimé ça, les crayons, j'en voyais à la maison. J'ai grandi aussi avec des grands-parents antiquaires. Donc il y avait des tableaux à la maison, j'ai vu ça. Tableaux m'intéressaient moins, mais c'est quand même des choses qu'il y avait sur les murs. Et puis, mon père achetait des bandes dessinées. Là, j'étais Charlie Hebdo, et de temps en temps, il y avait un album de BD qui arrivait à la maison, et ça me fascinait. Savoir que je pouvais l'avoir rien que pour moi, me mettre au lit et lire Tintin, Philémon, des choses comme ça.
Et tu avais quel âge ?
Alors, je devais avoir 9-10 ans.
Et à l'école, comme Guy Machin, tu dessinais plutôt que tu n'apprenais tes cours ?
Alors j'avais des cours de caté, ce qui me gonflait énormément. Je ne suis pas du tout croyant, mais ces cours de caté permettaient de dessiner déjà. Donc les apôtres, voilà, j'avais des bonhommes à faire. Ça me plaisait. Je me souviens également, je devais avoir 10-11 ans, avec les copains de classe, l'instituteur nous avait fait inventer une histoire pour la renéotyper et la publier et la vendre à la famille. Et on avait appelé ça le tour du monde des enfants. Et j'avais illustré cette petite histoire écrite par les élèves. J'avais illustré ça avec ma petite fiancée de l'époque qui s'appelait Claire. Voilà. Et j'étais très fier, non seulement de pouvoir m'être approché d'elle, point de vue dessin, mais aussi d'avoir le tour du monde de 5 copains. Et d'avoir mes dessins publiés. Et je suis toujours aussi content de voir un dessin publié, même 40 ans après.
Tu avais les idées claires pour accomplir ta mission, dessiner l'histoire.
Je suis parti en vacances, en voyage, très régulièrement avec ma compagne. Ça fait 22 ans qu'on voyage ensemble, on est toujours ensemble. Et j'ai eu la chance de vivre avec elle 6 mois au Bénin. J'ai dessiné tous les jours. Ensuite, on a fait un voyage de 9 mois en sac à dos à travers l'Asie du Sud-Est. J'ai dessiné, j'ai fait beaucoup de voyages avec elle en Inde, en Chine, au Canada, au Sri Lanka, etc. Et j'ai beaucoup dessiné. Et ça m'a permis de camper des personnages, des bâtiments, des marchés, faire des couleurs, dessiner des fruits, des arbres. Déjà, ça, c'était quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup nourri. C'est des bonnes choses que j'avais dans mes carnets et dans ma tête pour améliorer mes planches de BD, pour nourrir mon travail de dessinateur à table, c'est-à-dire assis chez moi à faire mes planches. Alors ça a été une très bonne formation de s'asseoir dans la rue, aller en Inde, de rester une heure ou deux, dessiner ce que je vois. Et tout ça, ça a permis de casser les tics que j'avais en bande dessinée. Les tics, c'est les tics de BD qui sont un petit peu... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut casser des choses qu'on a appris en BD, ne pas copier sur les autres et puis faire soi-même ce qu'on sait faire, quoi. Et le dessin de voyage m'a énormément nourri.
Comment tu peux casser les codes de BD, qui étaient autodidacte? Donc j'imaginais que tu t'étais affranchi déjà de ces codes.
Quand j'avais 16, 17, 18 ans, je suis tombé amoureux du trait de Yves Chaland, un grand dessinateur de bande dessinée qui est mort depuis. Et son trait qu'on appelle la ligne claire m'a complètement fasciné. Et je voulais être Chaland. Puis je voulais être Franck Margerin aussi. Et bon... Bonjour.
Bonjour. À la radio, la télé, jusque dans les journaux. C'est quoi l'objet en question?
C'est une bande dessinée.
Oh, génial. Qui c'est qui a illustré ça?
C'est moi.
On dirait... Ah, oh, c'est toi.
Ouais, c'est moi.
Et toi, tu m'avais déjà fait voir ton œuvre, il me semble bien.
Je pense pas, non.
Non, tu non, m'en avais parlé.
Bah, je pense pas.
Je serais curieux.
On s'est vu, on s'est croisé à Nuit debout, il me semble, mais...
J'avais du réserve, toi.
Oui, c'est vrai. C'est pas loin de réserve.
Ouais, c'est ça qu'on avait parlé, ouais.
Voilà.
Ça y est, tu l'as mis. Oui, tu m'as dit bientôt, je te le montrerai. Et donc, tu dis ce que les gens y en pensent.
Par contre, il ne faut pas trop se rapprocher
du
micro. Non,
mais il faut faire
ça. Oui, oui, c'est ça.
Ouais, c'est
ce que j'enregistre en ce moment.
C'est la très bonne
d'accord,
qualité.
Parce que dans les journaux, le patrimoine du pays dépérit chaque jour à cause de chanteurs sans style et humour, à la recherche du prestige du monde de l'argent, et irait jusqu'à dire qu'ils ont du talent. Nous, on s'en fout de vos bêtises, de vos conneries. Nous, on vit. Pendant ce temps-là, vous pouvez toujours baver. Barbafoul, vas-y, potionne. De Alpapoul, même jusqu'à Lisbonne.
Parfait.
Aux électorales, j'ai fait un carton lexical normal pour un rappeur loyal, sans égal. C'est pas la peine, Le Pen, on sait bien où ça mène, toujours la même rengaine. Lors du premier tour, les résultats durent dans la gueule. Et l'on se pose la question, mais qu'est-ce que ces gens veulent? Embellir leur valeur de vie irréelle pour ne pas tout simplement se voir mortel. Le même sang, les mêmes veines. Ce monde est fait pour tous. Moi, c'est ce qui me rassure, même si parfois c'est dur.
Est-ce qu'on a assez de mémoire pour reprendre là où on en était?
On va essayer. On va essayer. Allez, on s'y remet.
Donc moi je sais plus.
Parler de Yves Chaland.
Oui, c'est ça.
Bah, je voulais être eux, quoi. J'étais bien jeune et naïf, mais j'ai vu que on est soi, on n'est pas les autres, en dessin, quoi. J'ai donc appris tout seul, en lisant des bandes dessinées, en regardant le travail des autres dessinateurs. Hein. Il n'y a pas que Chaland et Margerin. J'ai beaucoup regardé Maurice, Will, les Belges des années 50-60. Et puis les dessinateurs français comme Jeannot, Dupuis Berberian, Stanislas, etc., etc. Je me suis nourri de plein de dessinateurs. Mais je ne suis pas le seul, on est beaucoup dans ce cas-là. On s'est nourri pour sortir ce qu'on a nous-mêmes à dessiner. Ce qu'on ne sait même pas, ce qu'on sait dessiner aussi.
Et tu parlais en termes de code, alors quel type de code tu avais repéré pour lequel tu voulais t'affranchir?
Des cadrages lambda. Par exemple, pour Paco, je me suis amusé avec Fabien et en lui proposant à chaque fois, puisque Fabien me fournit un scénario écrit, très précis, avec une description de l'image. Et à partir de là, je me suis senti très libre pour lui proposer des fois des gros plans, des façons bien particulières de construire une image, sans altérer son idée, sans rien perdre de ce qu'il voulait faire comprendre au lecteur. Je lui ai proposé des choses qui aillent dans le sens de la narration et de la BD. J'ai voulu me faire plaisir. Et je voulais donc des fois m'amuser. J'ai voulu faire pas des tableaux, mais une façon bien particulière de construire une planche avec des gros plans, des sens de narration. Je voulais m'amuser.
Tu travailles beaucoup ?
Je fais beaucoup, beaucoup de travail avant de terminer une planche, jusqu'à l'ancrage de la page. Je fais beaucoup de recherches. Bon, notamment pour Paco, j'ai le scénario de Fabien devant les yeux. Tout est écrit. Je vais faire des recherches en tout petit, comme ça, au crayon. Des petits bonhommes patates, comme ça. Je cherche les cases et les planches, mais en tout petit. C'est ce qu'on appelle du storyboard ou du découpage. Donc j'en fais des paquets de dessins comme ça, jusqu'à me dire, hop, ça me plaît, cette case s'enchaîne bien avec l'autre. Ensuite, je dessine la planche comme ça, en tout petit. C'est très mal dessiné, il n'y a que moi qui comprends. Déjà, c'est la première étape. Ensuite, je vais travailler en plus grand au format de la planche. Je vais faire un rough. Ça veut dire que je vais travailler en brouillon abouti ma page. Carrément avec les couleurs déjà faites, aussi bien en bleu ou n'importe quelle couleur, du moment que j'installe la lumière et les tons. Les tons pour avoir la force, pour savoir d'où vient la lumière. Ensuite, après cette étape, je prends cette planche en photo, je l'envoie par mail à Fabien. Il valide, mais en général, il a tout validé. Ensuite, je crayonne la page. Après le crayonné, je l'encre sur table lumineuse et ensuite je mets les couleurs. C'est très long parce que je suis très minutieux, jamais content et perfectionniste. Voilà. Mais c'est un long travail. Mes copains qui sont passés à la maison, qui me voyaient dans mon atelier, ils me disaient « Mais t'es malade, tu fais trop de boulot, trop de trucs, vas-y plus vite et tout. » Et ouais, mais bon, je suis un peu sourd à leurs conseils et pourtant je les écoute. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de travail, je me suis un peu fatigué sur cet album. J'ai un peu trop bossé. Voilà.
Heureusement, c'est en deux tomes et pas en trois. Donc,
Ouais, mais là, ces jours-ci, j'avais envie d'avoir un troisième tome.
Oui.
Ouais. Je voulais continuer cette aventure et puis bien sûr, et bosser avec Fabien parce que c'est un scénariste de grand talent, quoi. Vraiment.
Mais c'est toujours le scénariste qui a la main.
Qui a la main.
Tu pourrais imposer, non ?
Oui, bien sûr, je l'ai fait. Fabien a écrit l'histoire. Quand j'avais la page d'écriture devant les yeux, je mettais Fabien de côté. Il n'existe pas pour l'instant. Je travaillais pour Paco. Ça veut dire que je mettais mon dessin, mes cases, au service du narrateur. C'est donc Paco les Marouges, le héros de l'histoire. J'oubliais Fabien. La personne qui comptait, c'est donc le personnage BD. Et c'est lui que je servais. Si je pensais à Fabien sans arrêt à faire mes planches, sur chaque planche, j'aurais peut-être été embêté. Là, je me suis complètement immiscé dans l'histoire grâce au personnage. Le scénariste, c'est quelqu'un de cher. Hop, il n'existait pas pendant la réalisation de la planche. Fabien existait quand j'avais terminé ma page ou ma journée, où je pouvais lui montrer le travail. Mais pour bien faire les choses, c'est mes personnages qui comptaient avant tout.
Nous accompagnons dans la rue Éric Sagot, le dessinateur de Paco les Mains Rouges, bande dessinée parue en deux tomes aux éditions d'Argot et scénarisée par Fabien Velman.
Moi, je faisais une BD et je l'ai vue dans les boutiques que c'est écrit, dans les librairies. Roman graphique. Ah bon, bah, très bien, parfait. Roman graphique, si vous voulez. C'est la même chose, hein, j'ai raconté une histoire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bulles. C'est vrai que c'est presque un roman, en fait. Hein. Oui. Et je me suis appuyé sur la narration de Fabien, qui est de la voix off dans cette histoire. Et c'est tellement... Alors, c'est pas parce que c'est mon scénariste, mais il m'a fait un magnifique cadeau. J'ai lu et relu chaque dialogue. Et à chaque fois, je trouvais ça riche. C'est subtil. En plus, avec peu de bulles, j'avais des images pleines... Et souvent des images en décalage par rapport à la narration.
L'origine du projet, c'est suite à tes voyages
tout à fait.
En Guyane.
Oui, je suis allé en Guyane en 90, la première fois avec un copain, sans rien connaître de l'endroit. J'étais libre, je venais de gagner un peu de sous parce que j'avais illustré un jeu de cartes. Puis j'étais peinard, j'adorais déjà voyager. Je pars avec mon copain à Cayenne et j'ai aimé dès la sortie de l'avion, j'ai aimé l'endroit. J'ai aimé la chaleur sur la peau, la végétation en face de moi, tout, ça m'a plu tout de suite. J'ai eu la chance de loger à Kourou sur un bateau à voile. Et avec ce même bateau, je suis allé sur les îles du Salut, notamment l'île Saint-Joseph, en face de Kourou, à 13 km. Et j'ai arpenté cette île avec un copain et une copine. Et j'ai vu les ruines. J'ai vu les grands bâtiments bouffés par la végétation, des marches, des pierres taillées, l'homme, faites par l'homme, quoi. Mais c'est une île paradisiaque aujourd'hui. Et on m'a expliqué sur place que des bannières étaient passées là et avaient souffert beaucoup, quoi. Moi, ça m'a interpellé. J'ai rapidement fait des recherches, donc j'ai acheté 2-3 bouquins à Cayenne, sur la Guyane, le bagne de Guyane, et puis je dis waouh, il y a matière à raconter une belle histoire. Ça fait, donc je t'ai dit, c'est en 1990, ça fait 27 ans. Hein. Ensuite, j'ai acheté à droite à gauche, dans les vide-greniers partout, des bouquins. C'est rare hein, de trouver des choses sur les bagnes de Guyane. J'ai amassé pas mal de docs, mais quand il s'agissait d'écrire une histoire, de la mettre en place, j'avais un mal fou, j'avais trop d'informations, trop de passion, j'ai mis trop de passion, et je ne savais pas comment commencer, comment l'écrire, quoi faire avec. Et j'ai rencontré Fabien Velman à l'anniversaire de Mathieu Bonhomme, un excellent dessinateur, et on a joué au badminton ensemble avec Fabien, il y avait d'autres dessinateurs, voilà, et on s'est bien entendu. Ensuite, j'ai revu Fabien aux Utopiales, et je lui ai demandé, parce que je savais que c'était un bon scénariste, je lui ai demandé s'il était intéressé pour se pencher, peut-être, éventuellement, me proposer ou m'écrire une histoire sur la Guyane, sur les bannières de Guyane. Fabien m'a dit, ben ouais, pourquoi pas, prête-moi ce que tu as en documentation. C'est ce que j'ai fait, je lui ai mis un gros sac. Il a ramené ça à Paris. Et quelques temps après, il m'a dit, écoute, Eric, le sujet me plaît beaucoup. On va faire quelque chose. On s'est vu plusieurs fois à Paris, on a discuté. Fabien écrivait tranquillement l'histoire. Il m'a posé des questions. De temps en temps, je pouvais lui donner mon avis ou des petites idées. Et puis un jour, j'ai reçu 92 pages par Internet. Une histoire magnifique qui m'a filé les larmes aux yeux tellement elle était belle. Et j'ai commencé, j'ai fait trois planches d'essai qu'on a proposé à trois éditeurs. Ces trois éditeurs nous ont dit, ben ouais, ça nous plaît, il faut qu'on se voit. Donc je suis monté à Paris. On a eu sur 2 jours, 3 rendez-vous chez Futuropolis, Dargo et Sarbacane. Et on a choisi Dargo. Voilà. Dargo qui nous a proposé 2 tomes de 54 pages au lieu d'un one-shot de 92 pages. Moi j'étais content parce que ça permet d'aller de raconter un peu plus et surtout d'avoir des grandes cases. Si on a 108 planches au lieu de 92, on pouvait s'amuser à faire des grandes pages. C'est ce que je voulais. Puis je voulais aussi montrer la Guyane.
Comme il y a eu 4 années, c'est ça, entre l'apparition des 2 tomes,
oui.
Il y avait une pression pour que...
Oui, une énorme pression.
Que je ce me soit plus rapide.
Ouais, ouais, ouais. J'ai eu des ennuis de santé assez importants sur le tome 1. Ensuite, ces ennuis de santé terminés, c'est plus un traumatisme... Suite à ces ennuis de santé, j'ai un peu perdu pied, j'ai perdu confiance, mais j'ai été rattrapé par la bienveillance de mon éditeur, qui m'a jamais emmerdé, qui m'a dit « Allez Eric, on y va, faut aller, on y va, fais-toi confiance, c'est bien ce que tu fais. » Et puis Fabien aussi, qui était là. Et j'ai triplé, parce que j'étais lent. J'arrivais pas à dessiner, je déchirais mes pages, j'étais jamais content. Et puis, force de parler avec Fabien, l'éditeur, puis même d'autres dessinateurs, je me suis mis à faire 3 planches par mois. C'est long, c'est en couleur directe, mais j'y suis allé, jusqu'au mot fin. Je me suis dit, mais mince, c'était plus facile que je pensais.
Merci à Eric Sago, le dessinateur de Paco les Mains Rouges, bande dessinée parue en 2 tomes aux éditions Dargo, et merci à
Benjamin
pour leur libre participation à ce programme.